Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir, nous allons terminer cette semaine notre balade poétique avec un texte d'un poète du 19e, Jules Laforgue, mais qui est un texte en prose, intitulé Hamlet. Hamlet, Jules Laforgue. De sa fenêtre préférée si chevrotante à s'ouvrir avec ses grêles vitres jaunes losangées de mailles de plomb, Hamlet, personnage étrange, pouvait, quand ça le prenait, faire des ronds dans l'eau, autant dire dans le ciel. Voilà quel fut le point de départ de ses méditations et de ses aberrations. La tour où, depuis l'irrégulier décès de son père, le jeune prince s'est décidément arrangé pour vivre, se dresse en lépreuse sentinelle oubliée au bout du parc royal, au bord de la mer, qui est à tous. Ce coin de parc est le cloaque où l'on jette les détritus des cerfs, les décatis bouquets des galas éphémères. La mer est le sound, au flot sur qui on ne peut faire fond, avec la côte de Norvège en vue où la ville d'Essingborg, ce nid de l'indigent et positif prince, fort embrasse. L'assise de la tour où le jeune et infortuné prince s'est décidément arrangé pour vivre, croupi au bord d'une anse stagnante, où le Sund s'arrange aussi pour envoyer moisir le moins clair de l'écume d'épave de ses quotidiens et impersonnels travaux. Ô pauvre anse stagnante ! Les flottilles des cygnes royaux à l'œil narquois n'y font guère escale. Du fond vaseux de paquets d'herbage, là, monte au pluvieux crépuscule vers la fenêtre de ce prince si humain, les cœurs d'antiques ménages de crapauds, râles glaireux expectorés par les catareux vieillards, dont un rien de variation atmosphérique dérange les rhumatismes ou les gluantes pontes. Et les derniers remous des bateaux laborieux viennent troubler à peine, non plus que les perpétuelles averses, la maladie de peau de ce coin d'eau mûre, oxydée d'une bave de fiel balayée, comme de la malachite liquide, cataplasmée ça et là de groupes de feuilles plates en forme de cœur autour de rudimentaires tulipes jaunes, hérissées ça et là de maigres bouquets de joncs fleuris de frêles ombrelles, semblables entre parenthèses à la fleur de la carotte dans nos climats. Ô pauvre anse ! Crapauds chez eux, floraisons inconscientes. Et pauvre coin du parc, bouquet dont les jeunes femmes se débarrassèrent comme minuit teinté. Et pauvre Sund, flots abrutis par le haut temps inconstant, nostalgie bornée par les bureaux très quotidiens du fort embrasse d'en face. C'est pourquoi, sauf orage, ce coin d'eau est bien le miroir de l'infortuné prince Hamlet, en sa tour paria, en sa chambre aux deux fenêtres vitrées de jaune, dont l'une montre en gris souillé les ciels, le large et l'existence sans issue, et l'autre est ouverte à la plainte perpétuelle du vent dans les hautes futaies du parc. Pauvre chambre, tiraillé ainsi au sein d'un inguérissable, d'un insolvable automne. Même en juillet, comme aujourd'hui, C'est aujourd'hui le 14 juillet 1601, un samedi, et c'est demain dimanche. Dans le monde entier, les jeunes filles iront ingénument à la messe. Au mur, une douzaine de vues du Jutland, tableaux impeccablement naïfs, comme on déjà dit, c'est un peintre aux galères, et dont chaque pièce du château utilise ainsi sa bonne douzaine. Entre les deux fenêtres, deux portraits en pied. L'un Hamlet, en dandy, un pouce passé dans sa ceinture de cuir brut, le sourire attirant du fond d'une pénombre sulfureuse. L'autre, son père, bardé d'une belle armure neuve, l'œil coquin et faunesque, feu son père, le roi Orvendil, irrégulièrement décédé en état de péché mortel et dont Dieu est l'âme, selon sa miséricorde bien connue. Sur une table, dans le jour d'insomnie des vitres jaunes, un laboratoire d'aquafortiste irrémédiablement rongé de sale oisiveté. Un fumier de livres, un petit orgue, une glace en pied, une chaise longue et un buffet à secret. Il a peur d'être empoisonné depuis le louche décès de son père. Dans la chambre à coucher, près du lit, un gothique édicule en fer forgé d'où un jeu de clés peut faire surgir deux statuettes de cire. Gerouta, mère de Hamlet, et son mari d'aujourd'hui, l'usurpateur adultère et fratricide Fenko. Tous deux modelés d'un pouce plein de verve vengeresse et le cœur puérilement percé d'une aiguille, la belle avance. Au fond de l'alcôve, un appareil à douche, hélas. De noir vêtu, la petite épée au côté coiffée de son sombrero de noctambule, Hamlet, accoudé à la fenêtre, regarde le Sund, le large et laborieux Sund, coulant son train ordinaire de flot quelconque, attendant le vent et l'heure de batifoler magistralement avec les pauvres barques des pêcheurs. Seul sentiment dont la fatalité qui pèse sur eux les laisse capables. Après le ciel d'hier et en attendant celui de demain, aujourd'hui, gros ciel blafard. Pas bien soulagé par la récente ondée, mais promettant un beau dimanche pour demain. Et c'est déjà le crépuscule. Un de ces crépuscules, comme les chroniques du temps nous en rapportent avec une émotion si peu jouée. Et les bruits de la ville d'Elseneur, qu'un vaste bassin sépare des domaines royaux, qui commence à disperser et noyer ses rumeurs de jour, de marcher vers les tavernes. Ah, me la coulée douce et large comme ses flots, soupire Hamlet. Ah, de la mer aux nuées, des nuées à la mer, et laisser faire le reste. Et il emballe l'heureux panorama inconscient d'un geste ad hoc, et il divague ainsi. Ah, que je fusse seulement poussé à m'en donner la peine. Mais tout est si précieux de minutes et si fugace. Et rien n'est pratique que se taire et agir en conséquence. Stabilité, stabilité, ton nom est femme. J'admets bien la vie à la rigueur, mais un héros est d'abord arrivé domestiqué par un temps et des milieux. Est-ce une bonne et loyale guerre pour un héros? Un héros et que tout le reste fût des levées de rideaux. Moi, si j'étais une jeune fille bien, je ne permettrais qu'à un pur héros de poser ses lèvres sur ma destinée. Un héros dont on pourrait citer les hauts faits, aux besoins ou les formules. Ah, par ce temps de Dano et Vergogna, comme dit Michel-Ange, il n'y a plus de jeunes filles. Toutes des gardes-malades. J'oublie les petites poupées adorables, mais hélas inclassables, les vipères et les petites oies à duvet pour oreiller. Un héros. Ou simplement vivre. Méthode. Méthode, que me veux-tu? Tu sais bien que j'ai mangé du fruit de l'inconscience. Tu sais bien que c'est moi qui apporte la loi nouvelle au fils de la femme et qui vais détrônant l'impératif catégorique et instaurant à sa place l'impératif climatérique. » Le prince Hamlet en a comme ça long sur le cœur. Plus long qu'il n'en tient en cinq actes, plus long que notre philosophie n'en surveille entre ciel et terre. Mais il est en ce moment particulièrement agacé par l'attente de ces comédiens qui n'arrivent pas et sur lesquels il compte si tragiquement. Outre qu'il vient de réduire en morceaux les lettres d'Ophélie, disparues depuis la veille, lettres écrites par une manie de petite parvenue sur du papier de Hollande bis, si récalcitrant à déchirer que les doigts de Hamlet lui en cuisent encore furieusement. Ah, misère et petit fait! Où peut-elle bien être à cette heure? Sans doute chez des parents à la campagne. Elle saura bien revenir, elle connaît le chemin. Elle ne m'eut d'ailleurs jamais compris quand j'y songe. Elle avait beau être adorable et fort mortellement sensitive, en grattant bien, on retrouvait l'anglaise, imbue de naissance, de la philosophie égoïste de Hobbe. Rien n'est plus agréable dans la possession de nos biens propres que de penser qu'ils sont supérieurs à ceux des autres, dit Hobbes. C'est ainsi qu'Ophélia m'eût aimé, comme son bien, et parce que j'étais socialement et moralement supérieur au bien de ses petites amies. Et les menues phrases qui lui échappaient aux heures où l'on allume les lampes, sur le bien-être et le confort, un Hamlet confortable. Ah, malheur ! Grâce au moins pour mon ange gardien, sinon pour moi. Ah, s'il me venait par un soir pareil dans ma tour d'ivoire une sœur, mais cadette, de cette Hélène de Narbonne, qui sut aller conquérir à Florence son adoré Bertrand, comte de Roussillon, bien que connaissant son mépris pour elle. Ophélie, Ophélie, chère petite glu, reviens, je t'en supplie, je n'y reviendrai plus. Tout de même, mon cher et tout Hamlet que nous sommes, nous faisons parfois une cordiale crapule. Suffit. Les voici. À gauche, sur les berges d'Elseneur, il aperçoit, qui n'a entendu parler de ces étonnants yeux d'hirondelle de mer, un attroupement qui ne peut être que ses comédiens. Le passeur, dans son large bachot, les embarquait, un roquet aboyait à ses oripeaux, un gamin s'était arrêté de faire des ricochets, un de ces messieurs très drapés, pris comme le passeur, et du geste d'un qui s'encanaille pour divertir la compagnie, une paire de rames, et l'on cingla vers... Des index tendus indiquaient le château. Une de ces dames laissait pendre un bras nu au fil de l'eau, et les abois, les rires, les voix arrivaient clarifiés comme à l'aquarelle. Il y avait certes là l'étoffe d'un beau soir au XVIIe siècle. Hamlet quitte la fenêtre et, s'installant devant une table, se met à feuilleter deux cahiers minces. Voilà pourtant, mon sentiment premier était de me remettre l'horrible, horrible, horrible événement pour m'exalter la piété filiale, me rendre la chose dans toute l'irrécusabilité du verbe artiste, faire crier son dernier cri au sang de mon père, me réchauffer le plat de la vengeance, et voilà, je pris goût à l'œuvre, moi. J'oubliais peu à peu qu'il s'agissait de mon père assassiné, volé de ce qui lui restait à vivre dans ce monde précieux, pauvre homme, et de ma mère prostituée. Vision qui m'a saccagé la femme et m'a poussé à faire mourir de honte et de détérioration la céleste Ophélie, de mon trône enfin. Je m'en allais bras dessus, bras dessous avec les fictions d'un beau sujet, car c'est un beau sujet. Je refis la chose en vers iambique, j'intercalais des hors-d'œuvre profanes, je cueillis une sublime épigraphe dans mon cher Philoctète. Oui, je fouillais mes personnages plus profonds que nature, je forçais les documents, je plaidais du même génie pour le bon héros et le vilain traître, et le soir, quand j'avais rivé ma dernière rime à quelques tirades de résistance, je m'endormais, la conscience toute rosière, souriant à des chimères domestiques, comme un bon littérateur qui, du travail de sa plume, sait soutenir une nombreuse famille. Je m'endormais sans songer à faire mes dévotions aux deux statuettes de cire et leur retourner leur aiguille dans le cœur. Ah, Cabotin, va, voyez le petit monstre.
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un cygne. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon cygne. Un bateau, ça dépend comment, on l'arrime au port. De justesse, il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable de la rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole, qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume, cette bave des chevaux rats au ras des rocs qui se consument. Oh, l'ange des plaisirs perdus, aux rumeurs d'une autre habitude, mes désirs dès lors ne sont plus qu'un chagrin de ma solitude. Et le diable des soirs conquis, avec ses pâleurs de rescousse, et le squale des paradis, dans le milieu mouillé de mousse, revient fille verte des fjords, revient violon des violonnades, dans le port fanfare les corps, pour le retour des camarades. Oh, parfum rare des salants, dans le poivre feu des chersures, quand j'allais géométrisant mon âme au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul poissé, dans les draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus. Et toi, fille verte, mon spleen, les coquillages figurants sous les sunlights cassés, liquides joues de la castagnette, tant qu'on dirait l'Espagne livide, Dieu des granites, ayez pitié de leur vocation de parure, quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure. Et je voyais ce qu'on pressent, quand on pressent l'entrevoyure entre les persiennes du sang et que les globules figurent une mathématique bleue dans cette mer jamais étale d'où nous remonte peu à peu cette mémoire des étoiles. Cette rumeur qui vient de là, sous l'arc opaque où je m'aveugle, ces mains qui me font du fla-fla, ces mains ruminantes qui me... Cette rumeur me suit longtemps, comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Et sur mon maquillage roux s'en vient battre comme une porte cette rumeur qui va debout dans la rue aux musiques mortes. C'est fini la mer, c'est fini sur la plage, le sable belle comme des moutons d'infini. Quand la mer bergère
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Et nous voici de retour, après le moment musical, à l'histoire de Hamlet, d'après Jules Laforgue. De taille moyenne et assez spontanément épanoui, Hamlet porte, pas trop haut, une longue tête enfantine. Cheveux châtains s'avançant en pointe sur un front presque sacré et retombant. Plats et faibles, partagés par une pure raie droite, scellés deux mignonnes oreilles de jeune fille, masque imberbe, sans air glabre, d'une pâleur un peu artificielle mais jeune. Deux yeux bleu-gris, partout étonnés et candides, tantôt frigides, tantôt réchauffés par les insomnies. Fort heureusement, ses yeux romanesquement timides rayonnent en penseurs limpides et sans vase. Car Hamlet, avec son air de regarder toujours en dessous comme cherchant à tâter d'invisibles antennes le réel, ferait plutôt l'effet d'un camaldule que d'un prince héritier du Danemark. Un nez sensuel, une bouche ingénue, ordinairement aspirante, mais passant vite du mi-clos amoureux à l'équivoque rictus des gallinacés, et de cette moue dont les coins sont tirés par les boulets de la galère contemporaine au rire irrésistiblement fendu d'un joufflu gamin de 14 ans, le menton n'est, hélas, guère proéminent, guère volontaire, non plus. L'angle du maxillaire inférieur, sauf aux jours d'ennuis immortels où la mâchoire alors portant en avant et les yeux par-delà même reculant dans l'ombre du front vaincu, tout le masque rentre, vieilli de 20 ans. Il en a 30. Hamlet a les pieds féminins. Ses mains sont solides et un peu tortues et crispées. Il porte une bague à scarabée égyptien d'émail vert à l'index de la main gauche. Il ne s'habille que de noir. Et s'en va, d'une allure traînarde et correcte, correcte et traînarde. D'une allure traînarde et correcte, Hamlet chemine donc de vers le cimetière au crépuscule. Il croise des troupeaux de prolétaires, vieux, femmes et enfants, revenant des bagnes capitalistes quotidiens voûtés sous leur sordide destinée. Parbleu, songe Hamlet. Je le sais aussi bien que vous, sinon mieux, l'ordre social existant est un scandale à suffoquer la nature. Et moi, je ne suis qu'un parasite féodal. Mais quoi, ils sont nés là-dedans, c'est une vieille histoire, ça n'empêche pas leur lune de miel, ni leur peur de la mort. Et tout est bien qui n'a pas de fin. Eh oui, levez-vous un beau jour, mais pour qu'alors ça finisse, mettez tout à feu et à sang, écrasez comme punaise d'insomnie les castes, les religions, les idées, les langues, refaites-nous une enfance fraternelle sur la terre. Notre mère à tous, qu'on irait pâturer dans les pays chauds. Dans les jardins de nos instincts, allons cueillir de quoi guérir. Oui, va-t'en voir s'ils viennent. Ils sont trop tyrans domestiques pour cela. Et pas encore assez esthétique et pour longtemps encore trop lâche devant l'infini, qu'ils gobent bouche bée un Polonius philanthrope quelconque qui leur chante « Enrichissez-vous !» Et dire que j'ai eu un instant ma folie d'apôtre. Oh là là, moi, avec ma petite vie unique, que j'aurai à partager avec une chère petite femme unique, attachée ce grelot, et prendre pour cela ma folle tête sonore. Ne soyons pas plus prolétaires que le prolétaire. Et toi, justice humaine, ne soyons pas plus forte que la nature. Oui, mes amis, mes frères, l'eau petit bonheur historique ou la purgation apocalyptique, le bon vieux progrès ou le retour à l'état de nature. En attendant, bon appétit et amusez-vous bien demain dimanche. La montée du sentier qui mène à la grille du cimetière est pénible. Hamlet se renfrogne et froisse des coquelicots dans ses doigts. Il arrive trop tard, la cérémonie concernant Polonius est enterrée. Les dernières silhouettes officielles sortent. Hamlet s'accroupit derrière une haie pour les laisser passer sans être vu. Quelqu'un donne le bras à Laerte, fils du défunt, qui fait peine à voir. Une voix dit comme d'un poussé à bout « Eh, quand on a un fou à la maison, on l'enferme !» En se relevant, Hamlet remarque qu'il vient d'endommager gravement une fourmilière. Et il achève la dite fourmilière à coups de talon. Tout le monde est sorti. Hamlet ne trouve dans le cimetière que deux fossoyeurs. Il s'approche du premier, lequel arrange les couronnes déposées sur la tombe de Polonius. « Nous n'aurons son buste que le mois prochain, lui déclare cet homme, sans y être autrement invité. » « De quoi est-il mort, sait-on ? » ?»« D'une attaque d'apoplexie. » »« C'était un bon vivant. » Alors là, Hamlet, qui en conscience et malgré son âme si lettrée ne s'en était pas encore avisé, sent qu'il a décidément tué un homme, supprimé une vie dont on peut témoigner. Le nommé Polonius. Il guignait devant lui au moins 40 bonnes années encore. Polonius vous faisait à tout propos tâter sa santé de fer. Et Hamlet les a, d'une estocade irréfléchie mais fatale, ma foi, rayée, comme on biffe dans un exorbitant de vie d'architecte. Est-ce que ces menus conflits de phénomènes riment à quelque chose au-delà d'ici-bas ? Hamlet se campe devant ce fossoyeur qu'il observe. Attendant des compliments sur son arrangement des couronnes, il le toise supérieurement et puis lui aboie par la figure « Words, words, words ». Entendez-vous ? Des mots, des mots, des mots. Il se dirige vers l'autre fossoyeur sans entendre celui-ci lui crier un « Hé, va donc, feignant !»« Et vous, mon brave homme, que faites-vous ici ?» Sa seigneurie le voit. Je retape les vieilles tombes. Ah, il y a beau jour que les vieux ont séché les plâtres par ici. Notre cimetière est toujours resté aussi petit, cependant que les bontés du feu roi doublaient presque la population de sa bonne ville. Le fossoyeur, un peu pris de vin, tâche à se caler sur une bêche. Ah, ah, vraiment doublé la population ? On voit que sa seigneurie n'est pas d'ici. Le feu roi, mort aussi d'une attaque d'apoplexie, était coureur, mais bel homme et un cœur d'or. Et partout où il progénitait, il laissait de vraies caresses et de bons écus à son effigie. Mais dites-moi, le prince Hamlet est bien le fils de sa femme, Gerouta. Et point! Sa seigneurie a peut-être, oui, parlé de feu l'incomparable fou Yorick, sans doute. Eh bien, le prince Hamlet est tout bonnement son frère par la mère. Hamlet, frère d'un fou de cour. Il n'est donc pas si fils de ses œuvres qu'il croyait. Et cette mère, elle ? Parfaitement, la mère était bien la plus diaboliquement belle gypsy que, sauf votre respect, on n'ait jamais vu. Elle vint ici, disant la bonne aventure, avec son fils Yorick, et elle fut retenue au château. Et un an après, mourut en mettant au monde le noble Hamlet. Quand je dis en mettant au monde, elle mourut de l'opération césarienne qu'on lui fit. Ah ! Cet Hamlet ne fut pas facile à attirer dans le monde d'ici-bas. Parfaitement ! Elle était enterrée où sa seigneurie voit qu'on a déblayé. Un ordre de la reine nous vint l'autre mois d'exhumer ses restes et de les brûler, bien que la gypsy fût chrétienne aussi bien que vous et moi, à preuve que nous pintâmes à tire-larigot ce jour-là. Puis est venu le tour de la tombe de son pauvre Yorick, dont sa seigneurie peut fouler ici les restes. Bon, je n'en ferai rien. Et que j'arrange pour recevoir dans une heure le corps de la noble fille de Polonius, Ophélie, qu'on a retrouvée. Eh oui, nous sommes tous mortels. Ah, Ophélie, on a retrouvé cette demoiselle. Près de l'écluse, monsieur. C'est son frère Laerte qui, ce matin, est venu nous avertir. Il faisait bien peine à voir, ce jeune homme. Il est très aimé. Vous savez qu'il s'occupe de la question des logements d'ouvriers. Il faut dire aussi qu'il se passe de drôles de choses. Et l'on assure avec cela, n'est-ce pas, que le prince Hamlet est devenu fou? Oh mon Dieu, près de l'écluse. Ouais, ouais, c'est la débâcle. Oh, je l'ai toujours dit que nous sommes mûrs pour l'annexion. Le prince Fortinbras de Norvège va nous faire notre affaire un de ces quatre matins. Moi, j'ai déjà converti mon petit pécule en actions de Norvège, et tout ça ne m'empêchera pas de boire un bon coup demain dimanche. C'est bien, continuez. Hamlet met un écu dans la main de l'homme et ramasse le crâne de Yorick. Et il va se perdre d'une allure traînarde et correcte, entre les cyprès et les mausolées, accablé de destinées, de bien louches destinées, ne sachant plus trop par quel bout reprendre un peu décemment son rôle. Hamlet s'arrête. Il tient le crâne de Yorick, embouché à son oreille, et écoute, perdu. Alas, pour Yorick! Comme on croit entendre dans un seul coquillage toute la grande rumeur de l'océan, il me semble entendre ici toute l'intarissable symphonie de l'âme universelle dont cette boîte fut un carrefour d'écho. Voilà une solide idée. Et voyez-vous, une espèce humaine qui ne s'enquérerait pas davantage, qui s'en tiendrait à cette rumeur vaguement immortelle qu'on entend dans les crânes, en fait d'explication de la mort, c'est-à-dire en fait de religion. Hélas! Pauvre Yorick. Les petits Elmintes ont dégusté l'intellect à Yorick. C'était un garçon d'un humour assez infini, mon frère. Même mère pendant 9 mois. Si toutefois ce titre commande une attitude spéciale, il fut quelqu'un. Il avait le moi minutieux, entortillé et retors. Il se gobait. Où ça est-il passé? Ni vu ni connu. Plus même rien de son somnambulisme. Le bon sens lui-même, dit-on, ne laisse pas de traces. Il y avait une langue là-dedans, ça grasseyait. Ça chantait, et souvent des gravelures. Il prévoyait. Hamlet fait le geste de lancer le crâne en avant. Il se souvenait. Même geste en arrière. Il a parlé, il a rougi, il a bâillé. Horrible, horrible, horrible. J'ai peut-être encore 20-30 ans à vivre et j'y passerai comme les autres. Comme les autres? Oh, tout! Quelle misère de ne plus y être! Ah, je veux, dès demain, partir, m'enquérir par le monde des procédés d'embaumement les plus adamantins. Elles furent aussi les petites gens de l'église, les petites gens de l'histoire, apprenant à lire, se faisant les ongles, allumant chaque soir la lampe, amoureux, gourmands, vaniteux, fous de compliments, de poignées de main et de baisers, vivant de cancans et de clochers, disant « Quel temps fera-t-il demain? Voici l'hiver qui vient. Nous n'avons pas eu de prunes cette année. Ah, tout est bien, qui n'a pas de fin. Et toi, silence, pardonne à la terre. La petite folle ne sait pas ce qu'elle fait. Au jour de la grande addition de la conscience devant l'idéal, elle sera étiquetée d'un piteux idem dans la colonne des évolutions miniatures de l'évolution unique, dans la colonne des quantités négligeables. Voilà, nous avons terminé pour cette semaine ce petit voyage dans les différents textes poétiques en compagnie des poètes. Et nous reprendrons la semaine prochaine une autre lecture. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir et à la semaine prochaine.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.